Bonjour Michaël Petitjean, chef économiste de Waterloo Asset Management. Bonjour. Vous êtes également professeur à l'université de Louvain. Nous sommes dans une semaine très intense en termes d'annonces de banques centrales. Pour rappel, la semaine dernière, il y a eu la BCE. Demain, nous aurons la Fed. Et puis, cette nuit, c'est la Banque du Japon qui a relevé ses taux. 25 points de base. Alors, c'était très attendu. Hein. Vous avez une banque centrale du Japon qui, aujourd'hui, essaye, en plus de maintenir les pressions inflationnistes, de maintenir sa devise, hein, le yen qui est bien sûr sous pression. Alors bon, le marché action n'a pas bronché, loin de là. Hein. Le Nikkei a battu encore une fois un nouveau record cette nuit, au-delà des 70 000 points. Petite réaction sur le marché obligataire. Comment vous regardez ce qui se passe du côté du Japon, hein, sachant que le carry trade, hein, c'est quelque chose de très important pour le marché?
Oui, effectivement, la situation du Japon nous a fort intéressé depuis maintenant 2 mois. On avait eu l'occasion d'en parler la dernière fois. Je pense qu'on s'était retrouvé sur l'antenne avec la Corée du Sud. C'était les deux pays que l'on avait en ligne de mire dans le cas où la situation venait à se normaliser. Et effectivement, les indices boursiers des deux côtés ont fortement rebondi. Alors du côté du Japon, si vous voulez, on est plutôt positif parce que le Japon est en train de se normaliser. La situation, que ce soit sur le plan de l'inflation, de la croissance, on retrouve une situation qui est assez proche de la situation qu'on avait connue en Europe pendant les années, on va dire, 2010. Une croissance qui revient puisqu'on s'attend sur base annualisée à une croissance de 2,1%. Et une inflation quand même malgré tout qui reste sous contrôle. Il faut savoir qu'au Japon, il y a une tendance de la part des entreprises à plutôt digérer la hausse des prix au travers de leurs marges. Donc, les entreprises japonaises ont tendance à rogner davantage sur leurs marges qu'à l'étranger, si bien que les répercussions sur le pouvoir d'achat des Japonais est moins important. Sachant par ailleurs, d'ailleurs, que les salaires, pour la troisième année consécutive au Japon, ont progressé de 5%. Donc, il y a des négociations salariales qui sont menées chaque année. Et ça fait la troisième année consécutive que les salaires augmentent de 5%, ce qui compense en fait le choc inflationniste et qui permet effectivement d'avoir une forme de dynamique au sein de l'économie japonaise qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps. Et les salaires réels ont même augmenté au mois d'avril. Donc, la hausse de 25 points de base au Japon s'explique, on ne peut pas le nier, par une forme d'inflation importée qui dégrade les termes de l'échange, c'est-à-dire que les importations, le coût des importations augmente davantage finalement que l'impact positif que ça peut avoir sur les exportations. Donc là, il y a un impact là qui est non négligeable. Mais néanmoins, il y a une forme de dynamisme au sein de l'économie japonaise qui conduit là à la Banque du Japon de manière tout à fait logique, j'allais dire, contrairement à la zone euro. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, mais contrairement à la zone euro, la hausse de 25 points de base est de nos points de vue tout à fait légitime.
C'est une semaine importante pour les banques centrales, avec le Royaume-Uni, la banque du Royaume-Uni qui va prendre la parole, la Banque nationale suisse, Norvège, Suède, Russie, et puis surtout la Fed. Réunion aujourd'hui et demain. Kevin Warr, tu vas tenir sa première conférence de presse demain soir. Contrairement à la Banque du Japon et à la BCE, il ne faut pas attendre de décision monétaire pour la Fed, pour la Banque centrale américaine. Néanmoins, peut-être des indices, des messages peut-être sur la politique à mener pour 2026, sachant que pour l'instant, Kevin Warr n'a pas dit grand-chose sur comment il comptait mener sa barque.
Oui, on aura sans doute encore une preuve de fort désaccord au sein du comité. Rappelez-vous que la dernière fois, je pense qu'on n'avait jamais observé un tel niveau de désaccord depuis les années 90. Ça risque de se confirmer lors de la prochaine réunion. Mais vous savez, je pense que le marché est tout à fait capable de digérer certainement une hausse de taux de 25 points de base. Et de nos points de vue, ce serait pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Il faut pas qu'elle intervienne trop tôt, on est bien d'accord. Mais si elle devait intervenir même dans le dernier trimestre de cette année, ce serait certainement pas une mauvaise nouvelle de notre point de vue, parce qu'il faudrait éviter à tout prix ce qu'on appelle un run-up, c'est-à-dire une hausse trop forte des cours qui pourrait provoquer de la volatilité inutile. Et une hausse de 25 points de base, c'est digérable. Vous savez que les taux ici, finalement, n'ont pas beaucoup bougé. On a baissé, on va dire, de peut-être 15 points de base sur le sur le 10 ans suite à cet accord entre guillemets, je mets bien les guillemets, parce que c'est un mémorandum qui a aucun poids légal en fait, hein, donc faut rester quand même vigilant sur ce qui risque d'arriver dans les mois qui viennent avec l'Iran. C'est la raison pour laquelle je pense que la décision de ne pas bouger les taux d'ici la fin août, pour moi, serait une bonne décision. Encore une fois, une hausse des taux serait tout à fait logique, étant donné la très bonne performance des entreprises américaines.
Il faudra bien sûr suivre ce qui se passe également du côté des banques centrales, notamment cet été, hein, puisque comme chaque année, on a le symposium de Jackson Hole hein, qui se tient, où là, on aura peut-être également d'autres éléments avec un peu plus de recul par rapport à la situation en Iran. En attendant, tout va bien du côté de Wall Street. Hier soir, le Nasdaq a gagné 3%. C'était sa meilleure séance depuis fin mars. SpaceX, qui a gagné 20% vendredi, a encore gagné 20% hier. Bref, c'est encore la tech qui tire la cote, Michael Petitjean. On se posait la question juste avant vous avec Laurent Chauder, en se disant, bon, bah, maintenant que la guerre est peut-être finie avec les États-Unis et l'Iran, c'est peut-être le moment de revenir sur les valeurs cycliques, les valeurs défensives. Bah, visiblement, non. Hier, le marché avait encore envie de jouer les leaders de l'intelligence artificielle.
Oui, et c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas fondamentalement changer notre politique d'investissement. Elle est restée, j'allais dire, très alignée depuis maintenant plusieurs mois, et c'est très important de ne pas rater un train qui est en marche. Et vous savez, c'est vrai qu'on peut suivre une politique davantage de diversification internationale. On a été particulièrement positif sur les États-Unis pour des raisons qui sont tout à fait logiques, puisqu'il faut quand même garder en tête que toutes les perspectives de croissance des bénéfices trimestriels sur les trois prochains trimestres sont au-delà de 20% lorsqu'on tient compte des gains exceptionnels, donc lorsqu'on les corrige. 20%, c'est bien au-dessus des moyennes historiques qui sont aux alentours, on va dire, de 9-10% en fonction du point de repère. Donc on est dans un marché qui crée beaucoup de richesses, de bénéfices, et donc les États-Unis restent un secteur, un marché très intéressant. Les PE ont même eu tendance, hein, les rapports cours-bénéfices ont même eu tendance à baisser sur les 10 derniers jours. Donc on reste, nous, positifs sur les États-Unis. C'est vrai qu'on peut davantage diversifier. Néanmoins, vous savez, j'ai parlé de la Corée du Sud et du Japon, on parle souvent des pays émergents, il faut quand même se rendre compte que ces deux pays-là représentent plus de 50% du poids des indices des pays émergents hors Chine. Nous, on n'est pas positif sur la Chine, on n'est pas surpondéré sur la Chine, plutôt négatif. Et donc, quand on veut investir dans les pays émergents, en fait, on investit essentiellement en Corée du Sud et à Taïwan et principalement trois entreprises hein, qui bougent le marché. Donc oui, les États-Unis incontournables avec une politique de diversification plus prononcée de notre point de vue sur l'Asie que sur l'Europe.
Le Nasdaq 100 a gagné 34% en ligne droite depuis fin mars. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment vous dites bon allez là c'est bon, il faut réduire, parce que là j'entends le message, il faut pas louper le train, il faut accompagner le mouvement, mais cet indice ne va pas gagner 30% tous les deux mois. Enfin, au bout d'un moment, il y aura forcément un élément qui va faire que oui, la tendance va peut-être pas être cassée, mais en tout cas se stabiliser, voire même assister à quelques prises de profit.
Oui, il faudra bien suivre l'évolution des perspectives de bénéfices. C'est vrai qu'on pourrait aller vers des déceptions. On est très haut, hein, en fait, hein, effectivement, dans les attentes de croissance de bénéfices. J'avais encore regardé un chiffre récemment. On était au plus haut depuis 1985 au niveau des perspectives. On était à 28%. Alors, c'est des perspectives qui sont calculées bottom-up, c'est-à-dire qui sont calculées à partir des price targets, des analyses financières, donc entreprise par entreprise, qui sont généralement bien au-dessus de ce qu'on obtient. Mais l'écart, justement, qu'on observe sur base historique par rapport à ce qu'on observe maintenant est particulièrement élevé. Donc le marché effectivement est optimiste. Maintenant, il faut reconnaître que sur les derniers mois, voire la dernière année, on a eu des belles surprises. Et on a révisé systématiquement à la baisse les perspectives de croissance des bénéfices sur les trois derniers trimestres, sauf sur le premier trimestre 2026, où là, on a eu une révision à la hausse. C'est relativement rare, mais ça a été le cas. Donc, faudrait pas non plus qu'on soit trop optimiste à l'égard des introductions en bourse. C'est clair que si on parle de SpaceX, de mon point de vue, il y a une bulle. Ça, on n'a pas des PE qui dépassent 100 sans qu'il y ait une bulle. Mais de là à vouloir généraliser à l'ensemble du marché, là, il y a un pas que nous ne franchirons pas.
SpaceX, qui est devenue hier la 6e capitalisation mondiale, devant TSMC notamment, avec 2500 milliards, oui, 2500 milliards de capitalisation boursière. Merci beaucoup, Michael Petitjean, de nous avoir accompagné ce matin, chef économiste de Waterloo Asset Management et professeur à l'université de Louvain.